J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Janvier 2019, il y a exactement 10 ans, depuis que la République démocratique du Congo a adopté la loi portant protection de l'enfant. 10 ans après, quel bilan faites-vous de l'application de ce texte sur terrain? Rejoignez-nous au 081-890-4969. Pour vos interventions en direct, vous pouvez aussi déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Et pour moi, Pierrot Elamegi, j'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
10 ans après, nous faisons le point avec vous sur l'application de la loi portant protection de l'enfant et nous avons associé à cet échange Monsieur Joseph Godet Kayembe, président de la LISADEL, membre du Conseil national de la jeunesse. Joseph Godet Kayembe, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et je crois que l'adoption et la promulgation de la loi portant protection de l'enfant avait réjoui plus d'un qui s'occupe exactement de la défense des droits des enfants.
Oui.
Et 10 ans après, pensez-vous que les choses ont évolué dans le cadre de la protection de l'enfant dans notre pays?
Oui, la loi portant protection de l'enfant découle de la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la République démocratique du Congo en 1990. Cette loi prévoit un certain nombre de dispositifs pouvant rendre le droit de l'enfant opérationnel. Mais il s'est fait malheureusement que beaucoup de choses qui sont produites dans cette loi n'ont pas été d'application pendant 10 ans. Et je crois que la loi souffre d'application jusqu'à présent. Il y a beaucoup de dispositions qui n'ont pas d'application. Ce qui fait que j'ai pu confirmer avec fermeté que la loi portant pour la protection de l'enfant n'est pas d'application.
Et alors pour vous, pourriez-vous par exemple épingler 2 ou 3 éléments majeurs qui ont été comme les innovations dans la loi et que vous auriez aimé voir cela s'appliquer sur terrain, parce que rappelons quand même qu'il y a beaucoup d'articles dans un domaine assez spécifique qui vous concerne aujourd'hui, pour savoir que non, voilà, dans ces domaines, la loi dit ceci et sur terrain cela n'a pas été appliqué.
La loi prévoit, pour ce qui est de la protection de l'enfant, mettre en place les organes suivants: le Conseil national de l'enfant, les corps des conseils d'orientation scolaire et professionnelle, les corps des assistants sociaux, les corps des inspecteurs du travail pour enfants, le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire secondaire, le Comité national de lutte contre les pires formes de travail de l'enfant, les organismes ou institutions agréés, la société civile pour la protection de l'enfant, le Parlement et le Comité d'enfants. Ça, c'est ce qui concerne la protection des enfants. La même loi prévoit, pour ce qui concerne la protection judiciaire, il a prévu de mettre dans tous les territoires de la République le tribunal pour enfants. Il a prévu de créer les établissements de garde et d'éducation pour enfants. Il a prévu, pour ce qui est des droits de l'enfant, il a prévu que chaque enfant congolais puisse bénéficier des droits à l'identité, des droits à l'éducation, des droits à l'enregistrement à la naissance, et toutes ces choses, à ce jour, ne sont pas d'application. Ce qui fait que je suis heureux, je suis bien placé pour vous dire, parce que nous faisons l'accompagnement des enfants, je suis bien placé pour vous dire que la majorité, 90% des droits des enfants ne sont pas d'application.
Et à quel niveau exactement se trouve le problème? C'est un problème de moyens, c'est un problème des acteurs qui doivent le faire ou c'est un problème de volonté?
Je crois que le problème se pose au niveau des volontés politiques. Parce que lorsqu'on prévoit des dispositions pour la protection de l'enfant, par exemple le conscience de l'enfant, en dehors du fait que vous devez les créer, il faut aussi prévoir un budget pour son fonctionnement. Cet organe n'a pas été mis en place. Et si on le met en place, s'il existe dans l'esprit de ceux qui veulent le mettre en place, mais s'il n'est pas opérationnel, ça n'existe pas. Les corps des conseillers d'orientation des enfants, le corps des assistants sociaux, c'est qu'il y a des assistants sociaux qui existent, qui existent, mais qui ne sont pas opérationnels parce qu'il n'y a pas un budget alloué à ce secteur. J'ai pas, par exemple, le tribunal pour l'enfant. Il était prévu il y a 10 ans que dans chaque territoire, il y ait un tribunal pour enfants. Et nous avons évalué avec près de 6 millions de dollars, on couvre toute la République, 6 millions, je ne dis pas beaucoup d'argent, 6 millions de dollars. Pendant 10 ans, on a couvert toute la République et ça n'a pas été le cas. Et je considère qu'il s'agit de manque de volonté politique. Et ce n'est pas le problème de moyens.
Mais on sait aujourd'hui, Joseph Godé Kayembe, que quand on voit l'ensemble de ces organes, cela veut dire qu'il y a des organes, et ce qui est de la responsabilité du ministère, par exemple, de la famille enfant, du ministère des Affaires sociales, de l'enseignement primaire et secondaire, du ministère de la Justice, il y a aussi le ministère de l'Intérieur, j'ai vu, avec la brigade au spécial. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on a évolué depuis 2009, y a-t-il eu de rencontres d'évaluation? Vous vous êtes retrouvé avec les acteurs impliqués pour pouvoir évaluer au fur et à mesure qu'on a évolué l'application de la loi?
Je crois que c'est le ministère du genre qui a la charge de la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant. Et toutefois, il y a des études qui sont menées sur le terrain pour voir comment ça fonctionne, y compris les tribunaux pour enfants qui sont créés, comment ça fonctionne. Il y a eu beaucoup d'études, d'évaluations, et je suis à mesure de vous dire que tout cela a été fait, mais il n'y a pas eu une évolution significative. Et le ministère du genre, et qui a la charge de la mise en œuvre de la loi protection de l'enfant, de suivre la mise en œuvre, c'est un ministère qui fait souvent d'évaluation. Il le fait à son niveau, mais il appartient aux institutions, aux États, ou sinon au gouvernement d'allouer le budget conséquent pour le fonctionnement. Et quand il n'y a pas de budget, ça ne fonctionne pas.
Merci beaucoup. On va revenir à vous, Joseph Godé Kayembe. Le temps d'écouter les auditeurs, je rappelle, qui peuvent nous appeler au 081-890-4969 pour intervenir en direct. Sylvain, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Piero, je vous salue. Je voudrais d'abord dire que nous, en Ituri, nous avons fait la guerre à un moment donné, et ceux qui étaient victimes étaient les enfants. J'ai dit que la question de la protection de la femme dépend de la vision. Vous avez posé une question, est-ce que c'est un problème de moyens ou un problème de volonté politique? Moi, je dis au contraire, c'est un problème de vision qu'on a de ce qu'est l'on fait d'un État. Donc, vous savez, je l'ai toujours dit, et ça n'engage que moi-même, c'est que la RDC, depuis 1960 à ce jour, c'est pratiquement un genre de mercenariat, un genre des acteurs qui ne comprennent pas qu'il faut libérer les potentiels congolais pour protéger les enfants, et même tous les Congolais, quoi, de ces histoires-là, de violation de leurs droits. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la Convention relative aux droits des enfants, et spécialement par notre loi qui protège les enfants congolais. Mais il faut dire qu'il n'y a rien qui s'est fait. Et tout part de nos familles, monsieur Piro. Je ne voudrais pas qu'on aille dans des analyses trop scientifiques, mais voyons le terrain. Je suis à Bounia, il m'arrive des fois de rentrer chez moi à 23h, et je fais les pieds. Je raconte beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, n'est-ce pas, en train de rationner les gens et courir ici et là. Et cela n'est pas même la petite fille. Et des fois, je m'arrête pour essayer de dialoguer avec eux. Quels sont les vrais problèmes? Mais écoutez, les gouvernants de notre pays, j'ai comme l'impression que surtout les deux derniers régimes pratiquement a sacrifié la famille. Puisque lorsqu'on viole les droits de l'enfant, il faut d'abord dire que peut-être c'est à partir de la famille. Et c'est là où j'ai toujours dit, je ne suis pas sociologue, excusez-moi, mais la question des familles congolaises pose un grand problème. Donc il y a cette histoire de la détérioration des valeurs familiales, mais aussi, je dis, la dépravation des mères qui est correctement, n'est-ce pas, gardé par nos familles, eh bien, donc, ça fait un problème. Ça fait un problème. Donc, j'ai suivi l'invité. Il parle des fonds qui ont été disponibles pour la question des gouvernances des droits des enfants congolais. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il faut, à commencer par la présidence de la République, qu'on essaye de mettre à cœur le problème de l'enfant. D'abord, Maltis nous disait déjà depuis plus de 12e, 13e, 15e siècle, que lorsque dans un pays où l'économie évolue d'une manière arithmétique et que d'une manière géométrique évolue, n'est-ce pas, les naissances, eh bien, il faut faire beaucoup attention. Donc, comme je l'ai toujours dit, notre économie n'est pas à même d'assurer la survie de nos enfants, et même par ricochet de nos familles, eh bien, il faut s'attendre à la violation massive des droits de nos enfants. Et moi, je dis toujours, il faut qu'on se rende compte du fait que, est-ce qu'on a une vision pour l'enfant congolais? Qui deviendra-t-il congolais demain? Vous avez posé la question de la scolarité de cet enfant. Mais écoutez, nous sommes à Bounia, nous sommes à Ituri, nous sommes au Congo. Des enfants qui étudient sur des briques, ok, ils sont sur des briques. Les salles dont les fenêtres et les portes sont idem. Un enfant peut passer par les fenêtres, tout comme par la porte, c'est comme s'il passait par la porte. Et donc voilà les gens d'enfants qu'on prépare. Qui sera-t-il demain? Donc je crois que c'est une question de politique générale, de gouvernance de notre État qui pose des grands problèmes. Et j'ai comme l'impression que on a fermé les oreilles, on a fermé les yeux, nous avons sacrifié nos enfants. Et aujourd'hui, je l'ai dit sans honte. Sans honte, j'espère que... Oui.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Allô?
Allô, on vous écoute, oui, Sylvain, oui.
Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai trop peur du sort de l'enfant congolais. Lorsque je regarde, et je termine peut-être par là, lorsque je regarde l'évolution politique de notre pays, avec les dernières élections que nous avons eues, mascarade de quelles sont, j'ai comme l'impression que bientôt nous allons violer massivement les droits de nos enfants. Et c'est pour cette raison que je vais interpeller toutes les institutions politiques du pays, à l'heure actuelle, à commencer même par la Cour constitutionnelle qui a maintenant la responsabilité de stabiliser la RDC. Puisque les premières victimes de violences post-électorales, post-électorales, oui, seront les enfants. Et moi, je dis que si demain, les enfants congolais tomberont dans les pièges des politiciens congolais, à commencer par l'actuel président de la République, et tous les autres acteurs politiques devront répondre devant les instances internationales de protection des droits de l'enfant. C'est important puisque l'avenir de demain ne nous appartient pas, nous les adultes, ça appartient aux enfants et nous devons tout faire pour protéger ces enfants-là. Si demain quelque chose leur arrive, je crois que le monde entier nous regarde et nous serons responsables face à face aux droits de ces enfants puisque nous, notre histoire est déjà terminée, à commencer par le président Kabila et nous tous. Mais ces enfants, nous devons les protéger.
Merci beaucoup Sylvain, vous avez évoqué la question de la vision, c'est plutôt la vision de ce qu'on veut faire de droit de nos enfants. S'il y a une bonne vision, on peut mettre les moyens, on peut mettre aussi de la volonté. Merci beaucoup Sylvain. Amouli, vous êtes à Arou, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je commence à saluer tous les auditeurs de la Radio Okapi. Et vous salue, mais en particulier, je salue tout le monde qui m'attend à Ingokolo. Précisément, je suis à Ingokolo, à Arou.
Ok, on vous écoute.
Et je pense que, oui, la question de protection d'enfants, c'est une question vraiment pertinente. Et depuis que la loi a été promulguée en 2009, il y a eu des changements ou pas, mais moi, personnellement, je me suis en train de me demander ce qu'il y a des lois en RDC. Parce que ce qui est vrai, les législateurs sont en train de promulguer des lois, et ils sont en train de promulguer, mais la mise en œuvre de ces lois pose un sérieux problème. Et ce qui est vrai, nous qui sommes dans des centres, et les intellectuels comprennent bien toutes ces situations, mais les gens qui sont dans des campagnes ne savent rien. Et je suis en train de me demander si même les policiers, par exemple, les OPJ connaissent ces lois, je commence par le pouvoir judiciaire. Et dans des cachots, vous verrez que les enfants sont détenus ensemble avec les majeurs. Et en principe, la loi dit que quand un enfant est arrêté, il faut le transférer directement dans les aires prévues par la loi devant son juge naturel. Mais c'est ce qui ne se fait même pas. Et si les autorités ne connaissent pas la loi, mais quel sera le sort de ces personnes qui vivent dans des campagnes? Je pense qu'il y a un grand travail à faire, à commencer par la communauté. Quand on promulgue une loi, il faut vraiment que les gens, les tribans, puissent être sensibilisés de ces lois promulguées. Et ça va monter jusqu'à la tête de l'État. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté au niveau de notre gouvernement, au niveau de la RDC, si une loi est promulguée, on pense que la loi a atteint tout le monde. C'est ce qui pose problème, surtout les problèmes de mise en œuvre de ces lois. Quand les gens ne connaissent même pas les lois, mais comment est-ce que les gens peuvent les mettre en œuvre? Je donne l'exemple de la Constitution même de 18 février 2006, où on avait dit aux gens de voter oui. Quand vous votez oui, on n'aura pas la guerre. Quand vous votez non, on aura la guerre. Mais les gens ont voté comme ça, ne savent même pas ce qui sont dans la loi. Même vous, journalistes, quand vous parlez des lois, les gens ne savent même pas cette loi dont on parle. Je pense qu'il y a un grand travail qu'il faut faire au niveau, à travers les ONG, à travers les gouvernements et tous ses partenaires, pour sensibiliser tout le monde et aussi la mise en œuvre de cette loi.
Merci beaucoup, Amouli. Il faut le travail de mise en œuvre, ça c'est très important. Vous avez évoqué ici les cas des OPJ, des policiers. Est-ce que tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice, est-ce qu'ils connaissent vraiment le contenu de la loi portant protection de l'enfance? C'est la question qu'on pourra poser à notre invité, lui qui est sur terrain, il pourra nous dire si beaucoup de gens ont été suffisamment sensibilisés par rapport à cette loi. En attendant, nous retournons ici à Kinshasa avec vous, Charles. Charles, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute.
Merci pour la parole. Je vais aborder le sujet dans le même sens que mes prédécesseurs. C'est comme l'a dit notre invité. Ce ne sont pas des lois qui manquent dans notre pays, mais les problèmes résident au niveau de son applicabilité. Je prends l'exemple en ce qui concerne la jeunesse au jour d'aujourd'hui. Nous savons qu'il y a un adage qui dit « la jeunesse, c'est l'avenir de demain ». Et dans la jeunesse, c'est là où nous trouvons les enfants. Mais nous avons constaté que les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Je vais donner un exemple concret. Je vois par exemple les cas des personnes qu'on appelle des malvoyants. Quand vous allez au boulevard Triomphe, au boulevard Triomphal ou vraiment boulevard au niveau de la ville ou la gare centrale. Ces gens-là, ils ont besoin d'un soutien. Mais ils sont accompagnés par les petits-enfants. Et ces enfants-là sont même exposés, même dans des accidents. Et ça se passe aux vies et aussi de tout le monde. Jusque-là, personne fait allusion, personne n'est interpellé. Même si vous allez aujourd'hui sur le boulevard, vous trouverez, surtout aujourd'hui le vendredi et demain samedi, ce sont les petits-enfants qui conduisent ces gens-là dans des magasins, dans des boutiques, dans des sociétés pour chercher quelque chose. Mais on se pose des questions. Est-ce que ces enfants-là, ils n'ont pas droit à la vie? Est-ce que ces enfants-là, ils n'ont pas droit à la protection? Et là aussi, j'interpelle les ONG qui s'occupent des enfants de pouvoir se mettre en place, de pouvoir se mettre en œuvre pour pouvoir lutter afin de protéger ces enfants-là. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Mais lorsque nous laissons les enfants comme ça, ils sont même exposés à des risques, des accidents, mais personne ne fait allusion à ça. En tout cas, c'est une situation qui nous inquiète beaucoup. Quand je prends un deuxième exemple, en rapport avec la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays, qui est dans notre constitution. Nous remarquons aussi que les enfants ne bénéficient pas de leurs droits d'études. Comment est-ce que nous aurons des cadres de demain si au jour d'aujourd'hui, nous arrivons à abandonner la scolarité de nos enfants? Je crois que les autorités doivent être aussi interpellées. Ils sont obligés de pouvoir respecter ce que la constitution de notre pays exige. Et enfin, pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, je prends le dernier cas, les enfants qui sont enrôlés dans l'armée. Chose qui est aussi interdite. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que souvent, ce sont les petits-enfants qu'on prend en otage, qui sont là dans l'armée et qui n'ont même pas la maturité. que pourquoi ça pose toujours problème. Vraiment, je remercie la Radio Capi pour cette émission. J'ose croire que ceux qui ont la commande de notre pays peuvent vraiment faire quelque chose pour que les enfants reviennent dans leurs droits. Je vous remercie, Pierrot.
Merci beaucoup, Charles. C'est très intéressant. La question de la gratuité, rappelons qu'elle est même à l'article 38, n'est-ce pas, de la loi. Pourtant, la loi sur la protection de l'enfant, l'article 38 insiste, et l'alinéa premier dit bien sûr que les parents ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans aucune discrimination. Et le paragraphe qui suit insiste sur le fait que l'État garantit les droits de l'enfant à l'éducation en rendant obligatoire et gratuit l'enseignement primaire public. Et vous avez évoqué cela, mais vous avez aussi vous êtes revenu sur ces enfants qui sont obligés de mendier, hein, d'une manière indirecte avec les personnes malvoyantes sur le boulevard. C'est aussi dans ce qui a été dit pour protéger l'enfant. L'enfant ne peut pas être forcé à travailler, ni être exposé, n'est-ce pas, à ces genres d'activités. Cela se passe au vu au-dessus de tout le monde. Merci beaucoup, Charles. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour également à l'invité avec vous. Hein. Je voudrais juste d'emblée féliciter la pertinence du sujet, oh combien important. Mais de prime abord, je voudrais juste, et à mon humble avis, donc, demander peut-être au ministère, hein, ayant en charge les jars, les familles, également celui de l'enseignement, travailler peut-être concomitamment question de définir bien cette bonne politique, parce qu'on est censé voir que on vote facilement les lois, mais la praticabilité, hein, l'applicabilité de cette loi ne semble pas rencontrer l'assentiment vraiment des enfants. Donc nous sommes censés voir peut-être quand on passe à travers les routes, on a tous ça, les enfants vraiment qui, je ne sais pas, ils étudient le matin, mais le soir, ils ont des emballages en plastique, question de vendre et peut-être amener, je ne sais pas, la nourriture aux parents. Je ne sais pas, est-ce que les gouvernements, par les biais du ministère de tutelle, est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures qui s'imposent, des mesures contraignantes, question d'arrêter cette criante hémorragie qui, à mon humble avis, ne semble pas vraiment avancer le pays. Parce que nous savons bien que les enfants sont les cadres, et pourquoi pas les futurs cadres de demain. Mais je pense qu'il est plus que temps pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires, question d'assurer la protection de l'enfant, comme nous c'est défini dans la loi. Ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi demander, je ne sais pas, et les gouvernements doivent aussi également. Moi, je pense que le problème ne réside pas à l'imposition de la loi, mais le problème, c'est l'accompagnement de cette loi qui a été déjà votée. Je pense qu'il faut l'accompagner, chercher à définir la bonne politique, question, bien qu'on reconnaît l'enfant, sa vulnérabilité, on doit chercher à mettre en vedette sur tous ces points, question d'arrêter ce mauvais élan qui ne profite pas aux petits-enfants congolais. Je pense qu'il en est de même aussi pour l'éducation. Et je pense qu'il a été dit que les petits-enfants qui entrent à l'école primaire, ils devraient étudier gratuitement. Je pense que c'est l'une des mesures que l'État devrait prendre, question d'assurer la scolarité, plutôt laisser les enfants errer ça et là. Cela ne profite pas à l'État. C'est pourquoi on assiste à la criminalité grandissante dans les pays, parce que les enfants n'évoluent pas normalement. Et ces enfants deviennent une bombe à retardement pour les pays. Or, l'État doit prendre des mesures contraignantes, question d'encadrer ces enfants, protéger ces enfants-là, et ce serait une bonne chose.
Merci.
On a toujours vu, même pendant les vacances, je voyais la Gécamine à son temps organiser un peu les temps pour garder les enfants, encadrer les enfants, mais les choses pareilles sont restées vraiment dans, c'est tombé vraiment dans la poubelle des oubliettes. Ces choses ne rebondissent pas. Je pense qu'il est plus que temps pour que nous puissions un peu reprendre les choses au sérieux, pour que la protection de l'enfant soit assurée, parce que c'est là que les parents se retrouvent dans ce point, parce que si les enfants ne sont pas encadrés, les enfants peuvent constituer vraiment une difficulté pour les parents.
Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez insisté sur les enfants qui sont obligés de travailler, de vendre des petits articles et des sachets ça et là. Et là, vous insistez que si l'État mettait en œuvre la gratuité de l'enseignement, beaucoup d'enfants ne pourront pas se retrouver dans la rue. Merci. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Stéphane, vous êtes à Idiot, vous gardez la ligne. Nous faisons le point sur les 10 ans de la loi portant protection de l'enfant avec notre invité Joseph Godet Kayembe, à qui nous allons accorder la parole tout juste après.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Joseph Godet Kayembe, vous avez suivi les compatriotes qui sont revenus sur plusieurs aspects par rapport à la loi. Vous aviez déjà insisté là-dessus. Il y a notre ami Amoul qui a insisté tout à l'heure sur la méconnaissance de la loi. Est-ce qu'il y a-t-il eu suffisamment de sensibilisation auprès des OPJ, de la police, des acteurs du secteur de la justice pour qu'ils comprennent effectivement cette loi et comment ils peuvent traduire ça dans les actes, dans leur travail?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire une chose, j'ouvre une parenthèse, que aucun pays au monde, en plein 20e siècle, aucun pays au monde ne fonctionne comme le Congo. Le Congo, c'est un pays qui fonctionne autrement. Parce que la priorité des priorités devait être les enfants. L'avenir de cette République et l'avenir, notre avenir, ce sont les enfants. Mais curieusement, on donne plus de moyens pour achat de véhicules, pour le fonctionnement des institutions, qui ne produisent rien, mais pour les enfants, ça ne concerne personne, chacun pour soi. Lorsque vous parlez de la sensibilisation des autorités judiciaires, nous avions organisé, lorsque la loi est sortie, il y a 10 ans, nous avions organisé les activités de formation, les OPJ. Par exemple, à Kinshasa, nous avions formé tous les OPJ. Et chaque OPJ détient la loi portant protection de l'enfant, il y a 10 ans. Et le même travail, nous l'avons fait dans des provinces. Nous avons reproduit des lois, envoyé toutes les personnes qui sont censées appliquer la loi. Toutes les personnes ont la loi sous leurs mains. C'est la volonté, la détermination. Parce que nous avons les gens qui ne sont pas engagés à protéger les enfants parce qu'ils se rendent compte que ceux qui sont censés les protéger, qui gèrent le pays, et ils ne le font pas, eux aussi, sont dans la lutte, dans la négligence. Et ils profitent de l'ignorance de la population pour se faire l'argent sur le sexe des enfants. Et ça, je réponds à cette question en disant que nous avions fait toutes les dispositions pour que les personnes qui vivent la loi puissent détenir la loi pour autant protection de l'enfant. Si vous allez dans tous les tribunaux de la République, vous allez trouver la loi pour autant de protection de l'enfant entre le mets de magistrat. Si vous allez dans le siècle, vous trouverez la loi. Mais cette loi, les autres profitent de l'ignorance des parents. Peut-être, le problème, c'est que nous n'avons pas pris les dispositions pour que tous les parents soient sensibilisés. À l'époque, nous avions sollicité le ministère de l'EPSP pour que chaque enfant, chaque enseignant détienne la loi pour autant de protection de l'enfant et éventuellement amener à chaque enfant d'avoir la loi sous les mains. Mais malheureusement, le ministère de l'EPSP à l'époque avait refusé de nous accompagner. Et je voudrais revenir sur ce que notre ami Jérémy a dit. Il dit que il faut que l'enseignement, la gratuité, tous les problèmes qui se posent au niveau des enfants aujourd'hui qui sont dans la rue, les enfants qui sont des mendiants, qui accompagnent les aveugles, c'est parce que l'État
n'a pas rendu l'enseignement accessible à tous les enfants. Et c'est le malheur de la République. Tous les enfants n'accèdent pas au système éducatif. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Si il a 6 ans, 7 ans, il n'a pas mangé, les parents sont pauvres. La loi prévoit dans la constitution 69, prévoit que les parents incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une assistance matérielle et financière de l'État. Est-ce que l'État congolais, ça ne le profite pas si le parent est incapable? En dehors du fait que les enfants, les autres enfants peuvent aller à l'école, mais s'il y a des parents qui sont incapables de prendre les enfants en charge, l'État doit les appuyer matériellement et financièrement. La loi le dit. Mais personne ne s'en occupe. Les gens préfèrent acheter des maisons, acheter des véhicules. Ils croient qu'on se développe en ayant des véhicules et on est important. Et je crois que c'est la question que nous avons au Congo. C'est la vision, comme notre ami a dit, la vision. La vision. Quelle est la vision que nous avons pour la République? Quelle est la vision que nous avons pour les enfants, pour demain? Parce qu'aujourd'hui, avec la formation que nous avons eue, avec la pression internationale, nous sommes incapables de défendre notre République. Mais imaginez-vous, lorsque nous aurons une société, une génération où tous les jeunes gens ne sont pas formés, et ceux qui sont formés sont des formations bidons qui les reçoivent dans n'importe quelle école. Vous pensez que c'est ce pays qui va nous appartenir? C'est la question qui me vient tout en tête lorsque je parle des droits des enfants.
Mais on sait aujourd'hui, vous l'avez évoqué, hein, la création des tribunaux pour enfants, si on peut se focaliser sur ça, quel a été le taux aujourd'hui d'installation de ces tribunaux à travers le pays, Joseph Godé Kayembe?
Les tribunaux ne dépassent pas 20. Et ils ne dépassent pas 20. Et il n'y a pas... Il y a les tribunaux qui ne dépassent pas 20. Et si ça dépasse 20, c'est peut-être une information que je n'ai pas encore. Mais on a, avec l'évaluation, non, ça ne veut pas dépasser 20 exactement. Et même leur fonctionnement pose des problèmes parce que le juge pour enfants n'a pas les subsides nécessaires pour le fonctionnement du tribunal pour enfants, n'a pas les subsides et il n'a pas les moyens pour travailler normal. Même le cadre où il doit travailler n'est pas approprié. Donc, l'État congolais, entre l'UNICEF, qui a fait un effort pour doter, pour construire, ou sinon réhabiliter, de faux bâtiments qui ont été présentés par le gouvernement de l'État, mais en ce qui concerne la construction des bâtiments, aucun bâtiment n'a été construit. Ce qui fait qu'il y a même des juges pour enfants qui sont en train de quitter pour regagner les tribunaux ordinaires. Parce que le fonctionnement pose le problème.
Mais vous qui avez suivi quand même, est-ce qu'il y a-t-il quand même des éléments concrets aujourd'hui, des procès que vous avez suivis, qui étaient dans lesquels les enfants en conflit avec la loi ont été impliqués? Quand même, sur base de cette loi, y a-t-il eu des procès ou des cas où les enfants ont recouvré leurs droits, où il y a quand même des choses qui se sont faites par rapport aux droits des enfants, mais tout en appréciant quand même ce qui a été fait avec la loi dans un certain nombre de mesures?
Les juges pour enfants, dans certaines mesures, font leur travail correctement. Parce que la loi elle-même, elle a beaucoup de lacunes. Je prends l'exemple simple. Cette loi donne plus d'avantages aux enfants conflits avec la loi qu'aux autres enfants victimes des autres enfants. C'est que lorsque ton enfant a été violé par un autre enfant, l'enfant qui a violé bénéficie de la protection juridique, tandis que l'enfant qui est violé n'a aucune protection. Ça fait que ça fait un problème, c'est un débat. Donc aujourd'hui, nous constatons que cette loi a des lacunes qu'il faut corriger rapidement lorsqu'on va installer lorsque le chef de l'État, le nouveau chef de l'État prend ses mains, nous allons solliciter à ce que beaucoup de choses soient révisées afin que la situation de l'enfant soit équilibrée. Donc, vous remarquerez que lorsque l'enfant est victime de violence sexuelle, quel que soit son âge, devant le juge pour enfants, la première chose, le premier réflexe du juge pour enfants, c'est le placement de l'enfant entre les mains des parents. Or, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'établissement de l'État, des gardes, pour la rééducation des enfants. À cause d'absence d'établissement des gardes et d'éducation pour l'enfant, le réflexe de juge est de remettre l'enfant violeur à ses parents. Et quand il rentre dans le quartier, tout de suite, on crie à la corruption. Or, c'est la loi qui dit. Et en principe, si les choses fonctionnaient normalement, le juge appliquerait l'article 145.15 qui dit que si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, punissable de plus de 5 ans de servitude pénale et qui n'est pas puni, qu'il n'est pas punissable la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, les juges peuvent, s'il le met dans l'établissement des gardes d'éducation de l'État, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut pas dépasser une 22e année d'âge. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il a violé notre enfant, c'est que cet enfant a pris un manquement qualifié de sanction pénale. Mais, parce qu'il n'y a pas d'établissement des gardes, le juge peut faire autrement que remettre cet enfant à ses parents. Ça fait des problèmes. L'État n'a pas créé l'établissement pour que cet enfant soit placé dans l'établissement. Et ça bloque le processus de correction qu'on peut faire aux enfants. Et aussi, ça contribue au fait que lorsqu'un enfant qui a commis un manquement ou qui a violé, lorsqu'il revient dans le quartier, les autres enfants potentiels, les violeurs potentiels, se mettent sa vertu à violer les autres enfants. Donc c'est un problème réel qui existe, mais le juge ne peut rien faire, il ne peut pas aller au-delà de la loi, mais il va appliquer la loi, prendre possibilité de placer l'enfant dans sa famille. Et ça pose des problèmes. Mais néanmoins, les juges font le travail.
Merci beaucoup. On va revenir à vous. On écoute Stéphane. Stéphane, vous êtes à Idiofa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon frère, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Hein.
On vous écoute, vous Stéphane.
Vous avez suivi les prédécesseurs ainsi que l'invité. Donc il faut suivre bien leurs propos et leurs déclarations. Donc il y a eu le malheureux de constater que celui qui a promulgué la loi sur la participation, sur la protection de l'enfant est le premier à pouvoir l'enfreindre dans l'État. Hein. Et je veux plus m'atteler sur des dispositions de la loi. Une des dispositions consacre la gratuité de l'enseignement primaire et l'État lui-même n'en donne pas l'exemple dans ses propres écoles. On voit à longueur des journées les enfants sont chassés parce qu'ils n'ont pas payé le frais. Moi, je me demande à quoi ça rime tout ça. Alors, une des deuxièmes dispositions dont je veux parler, il s'agit bien sûr de la disposition qui consacre les droits à une alimentation saine à l'enfant, mais qui doit nourrir sainement l'enfant, n'est-ce pas les parents? Mais posons-nous la question, qu'est-ce que l'État congolais paye aujourd'hui aux parents fonctionnaires pour pouvoir nourrir sainement son enfant? Un salaire de $50, il est vraiment malheureux de constater tout ça. Donc, moi je pense qu'au regard des dispositions que je viens d'évoquer, de ce qu'ont dit les prédécesseurs, l'État congolais est un État criminel et en tant que tel, il mérite un traitement proportionnel.
Merci beaucoup. Beaucoup mon frère et compatriote Stéphane, même si le terme criminel utilisé pour décrire l'État, il est quand même assez dur, mais vous estimez que c'est l'État lui-même qui a promulgué la loi et c'est l'État qui a violé la loi parce que l'État n'a pas pu rendre effective la gratuité de l'enseignement et à travers les salaires que l'État paye aux parents, ça sera difficile aujourd'hui qu'on arrive à respecter cette disposition de la loi qui évoque l'alimentation saine pour un enfant. Merci beaucoup. Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs qui nous suivent à travers le monde et qui nous écoutent maintenant. En fait, moi je pense que si la protection des enfants aujourd'hui est devenue hypothétique, moi je crois et je suis convaincu, la faute vient d'abord à l'adulte d'aujourd'hui qui était l'enfant d'hier. Parce que ces adultes d'aujourd'hui pensent que le Congo appartient à eux seuls. Alors que le Congo appartient même à ceux qui n'existent pas encore. Il faut que les actes que nous posons aujourd'hui, pour lesquels nous devons être responsables, les propriétaires du Congo qui viendront demain et qui sont encore aujourd'hui enfants, méritent vraiment une protection et un suivi pour qu'ils soient capables de bien gérer ces pays. Je me rappelle d'un extrait de l'hymne national qu'on avait autrefois qu'on appelait la Zaïroise, il y avait un extrait très important qui disait que qui nous relie aux aïeux à nos enfants. C'est-à-dire le Congo doit appartenir même à ceux qui sont partis, que nous gardons au cimetière, même à nous qui sommes encore vivants, et pensons aux enfants qui vont venir. 10 ans après, je pense que les droits de l'enfant, 10 ans après, dans notre pays, sa protection cadre plus sur la sensibilisation. Mais on n'est pas vraiment dans les dispositifs, ou sinon, dans les mesures nécessaires qu'il fallait pour que l'enfant soit dans un cadre ou un climat qui peut permettre son épanouissement intellectuel, physique et tout ça normal. L'enfant d'aujourd'hui est mis par les adultes dans un climat perturbé. Et c'est que même sur le plan psychologique, l'enfant devient par exténuation lui-même perturbé et sort d'une race d'enfants qu'on n'arrive plus, que les adultes n'arrivent plus à maîtriser. C'est machette que vous voyez, tout ça, ainsi de suite. Et nous, à Matadi, c'est vraiment récurrent. Pour ceux qui ne connaissent pas Matadi, c'est la ville-province de la province du Congo central, une province de la RDC. C'est récurrent. Il y a des groupes de petits-enfants là qui sèment terreur parce qu'on ne les a pas mis dans leur place, parce que la protection vise plus la sensibilisation et la sanction. Mais je vois la sanction, c'est bon, mais il faut chercher à éviter, mettre l'enfant dans un dispositif qui va faire en sorte qu'il ne commette pas des actes répréhensifs qui pouvaient faire qu'on viole ses droits. C'est possible, parce que la République démocratique du Congo a excellé dans la négligence de la politique préventive. La RDC ne s'inscrit pas vraiment dans cette politique préventive. La RDC s'inscrit sur la politique de résoudre des problèmes. En résolvant les problèmes, elle s'en crée d'autres. Donc moi, je pense que le problème pour la protection des droits de l'enfant doit être circonscrit sur une démarche à occuper et puis à mettre les enfants dans des dispositions, des places où ils devraient être, et non les mettre dans les places qui les exposent pour que leurs droits soient violés. Et la RDC devrait travailler, même l'invité qui est là, moi je pense que la pensée doit plus être, la sanction c'est bien, mais je crois qu'on peut éviter à sanctionner si on est préventif. L'enfant est à l'école, sa place ce n'est pas d'aller vendre parce que les parents, les fonctionnaires sont impayés. Vous savez que la République démocratique du Congo a nombre d'enseignants, à 143 000 enseignants qu'ils ne payent pas. Ces enseignants ont des enfants. Comment ils doivent étudier? Et un enfant qui rate un jour de cours, il a raté 6 leçons. Et s'il en rate 6, c'est que 36 leçons qu'il n'aura pas. Alors les absences moyennes dans des écoles font état de 40 à 50 jours par année. Vous multipliez ça, vous savez qu'on est dans les 366 leçons que l'enfant a ratées. Mais ce qui fait que cet enfant rate déjà l'éducation telle qu'il fallait. Et les causes parmi lesquelles l'enfant rate les cours, c'est plus le retour des enfants à la maison à cause des non-paiements, des frais, des prises en charge des enseignants par les parents chômeurs, par les parents impayés, par les parents sous-payés. Et ça crée un problème. Mais si je pense qu'on pouvait résoudre cette situation, il y a moyen.
Merci.
Que les enfants ne puissent plus s'exposer pour qu'on viole leurs droits et que la punition soit attribuée aux violeurs. Donc, on pouvait éviter tout ça. Voilà un peu la lecture, ou sinon ma vision sur les 10 ans de la protection des droits des enfants.
Merci beaucoup, Simon. Vous avez insisté sur la démarche qui doit s'inscrire aussi dans la vision, comme Sylvain le disait en début d'émission, la protection des droits de l'enfant, y compris la mise en œuvre en application de cette loi. Ça doit être toute une démarche définie par le pouvoir public dans une vision claire, et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Et il faut agir dans la prévention, qui est dans la gestion des problèmes quand ils se présentent. Pichu, vous êtes à Kilungongo, nous restons dans le Congo central. Bonjour Pichu. Pichu, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
On vous écoute.
Ouais, Pierrot, je voudrais, je crois que les amis ont beaucoup dit à propos de cette loi qui a été rapidement validée par l'ensemble des deux chambres du Parlement. Et puis, pour justement, quand je voudrais évoquer, c'est juste pour dire que cette loi a été rapidement validée parce que il y avait violation de jeunes filles au niveau de l'Est. Il faut le dire, parce que le ministère du genre, femmes et familles et enfants avait rapidement mis en application cette loi parce que il y avait menace de viol, menace de nos soldats au niveau de l'Est de la République. Si je reviens à tous les propos qu'ont dit nos amis ici à la radio, je voudrais ici me baser plus sur l'encadrement. L'État congolais, c'est vrai, nous avons plusieurs ministères. Il y a des ministères qui ne fonctionnent que des noms. Il y a des milliers où même pas un bureau, même pas un bicoc qui peuvent représenter même un ministère ici au niveau, peut-être ici, là où nous sommes. Et nous allons suivre ces lois comment? Les enfants sont abandonnés à elles-mêmes au niveau du Congo. J'ai suivi l'autre ami qui a appelé, je ne sais pas, de Katanga, qui a évoqué le problème de l'état démissionnaire. Il y a des choses incroyables qui se passent au Congo. Comment voulez-vous? Pendant que dans d'autres pays, les enfants sont pris en charge par l'État congolais. Et le ministère qui s'en occupe est en attribution, c'est-à-dire qu'on l'attribue un budget. Le budget, quand il est réparti, ce ministère est censé avoir un budget pour l'encadrement des enfants ou le suivi des femmes. Mais malheureusement, chez nous, ce qui se passe, nous ne comprenons absolument rien. Au début, quand cette loi a été évoquée, il y a des jeunes gens qui ont été victimes d'emprisonnement parce que, justement, quand on voit la jeune fille âgée de moins de 17 ans, il est emprisonné, l'homme est emprisonné parce que il court derrière une fille parce qu'il a 17 ans ou il a moins de 18 ans. Et maintenant, ces jeunes gens ont été victimes. Ils ont même violé même notre code de famille. Parce que le code de famille n'avait pas enlevé cette loi, n'avait pas enlevé la loi de dire que la fille après l'âge de 15 ans peut se marier. La fille à l'âge de moins de 17 ans peut se marier. Mais quand cette loi est venue, c'est comme si on a violé et la loi et le code de notre famille et même la législation au niveau de la loi au niveau du Congo. Mais en tout cas, que l'État, ou soit que le gouvernement qui viendra après, puisse, n'est-ce pas, revoir. Là, je trouve qu'il y a un grand travail à faire dans ces ministères dès qu'il y a un gouvernement responsable est mis en place. Je crois que nous pourrons, n'est-ce pas, remercier ce gouvernement s'il répondait à l'appel de nos enfants pour que nos enfants puissent être bien encadrés et que le lendemain puissent être assurés.
Merci beaucoup, Pichu. Vous estimez que ici, il y a eu d'abord une question de volonté et parce que la volonté a fait qu'on n'ait pas affecté assez de moyens, que ce soit, comme notre invité le disait tout à l'heure, le ministère des genres, famille et enfants, qui n'a pas eu de moyens nécessaires pour la question de la protection de l'enfant. On ne peut pas arriver à mettre en œuvre la protection de l'enfant, la concrétisation de la loi, s'il n'y a pas eu de moyens conséquents. Il y a beaucoup d'organes qui devaient être mis en place et ces organes ont été énumérés en début d'émission par notre invité. Et la mise en place de tous ces organes demandait les moyens conséquents, un budget conséquent pour y arriver. Et ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, beaucoup même d'auditeurs, même ceux qui ont commenté sur la page Facebook, insistent sur le fait qu'on devait y aller palier par palier pour savoir évaluer. On peut dire qu'on a attaqué la question de la gratuité de l'enseignement. Elle a été résolue. La question de la mise en place des CIST est résolue. Et comme ça, on peut bien évaluer la loi. On revient à vous, Joseph Godet-Kayembe, parce que vous avez suivi les uns et les autres qui ont commenté, qui ont émis le vœu de voir le prochain gouvernement prendre à bras les corps la question de la protection de l'enfant. Et alors, à votre niveau, vous qui militez pour la protection de l'enfant, quel est le plaidoyer que vous pouvez mener aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'on est à une période charnière où on peut avoir dans les jours prochains de nouvelles institutions. Quel pourrait être pour vous le plaidoyer aujourd'hui pour cette question de l'application de la loi portant protection de l'enfant?
Si nous devons demander au gouvernement, au président de la République, qui pourra être le garant de la nation pour les 5 années qui suivent, nous devons nous demander, première chose, d'augmenter le budget de l'éducation. Le budget, à ce jour, ce sont les parents qui prennent en charge l'éducation. Il faut qu'ils mettent un budget qui doit pouvoir payer les enseignants à la place des parents. C'est-à-dire, si les parents, leur contribution en général allait jusqu'à 1,5 milliard de dollars, l'État doit débourser 1,5 milliard de dollars ajouté à 1 milliard qui est censé être donné à l'EPSP pour qu'il s'en fasse 2,5 milliards et qu'il doit se débourser chaque année pour permettre à l'école de fonctionner et payer les enseignants sans le préjudice. Parce que le problème, c'est le préjudice. Lorsqu'on dit que l'enseignement devient gratuit obligatoire, il faut que quelqu'un paye à la place des parents. C'est l'État qui doit payer. Ça, c'est la première chose que nous devons demander au gouvernement. Deuxièmement, nous pensons que les foyers, les centres de transit pour enfants victimes de violence doivent être mis en place parce que le ministère des Affaires sociales n'arrive pas à fonctionner, à répondre aux besoins de la justice des enfants parce qu'il n'a pas de structure de prise en charge. Les établissements de l'État doivent être construits. Ça ne coûte pas des milliards. Ça, c'est la volonté politique. Et l'État doit pouvoir accepter le moyen par rapport à ça. L'État doit pouvoir accepter le moyen aux organisations pour que les gens mettent en place des cliniques juridiques, ils mettent en place le centre de transit, ils mettent en place le centre de rééducation pour les enfants en conflit avec la loi, pour les enfants victimes de violence, pour les enfants vulnérables issus de familles pauvres. Ça va permettre à ceux qu'on puisse rattraper
Merci.
Les enfants qui n'ont pas étudié, les filles qui n'ont pas étudié,
Merci.
Les déficits de réinsertion, de réclassement. Et
Merci.
C'est là qui peut permettre à ceux qui voient l'action de l'État.
Merci beaucoup, Joseph Godet Kayembe. On va terminer avec vous, Maître Mopi. Là, vous êtes à Guémena. Permettez-nous juste de vous accorder 30 secondes parce que là, on doit chuter complètement. Mopi, là, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
En 30 secondes, oui, pour terminer, oui.
Bonjour à toi et bonjour à l'invité, Pierrot. D'abord, premièrement, je dis à commencer à souhaiter bon anniversaire à cette loi sur le plan forme et non sur le fond. Et mon anniversaire s'arrête seulement sur la forme. Car cela a été confirmé par l'invité qui est par devant vous. Il a clairement dit que non, de toutes les dispositions que dans cette loi, 98% n'a jamais été exécuté. Donc si la forme c'est bien, mais le fond ça pose problème. Je prends le cas de Guémena. Ici à Guémena, on a installé le tribunal pour enfants. On avait fait semblant de nommer un juge, le juge est arrivé, il est rentré, il est nommé ailleurs. Donc jusqu'à ce jour, il n'y a pas un juge pour animer cette juridiction portant protection pour enfants. Et non seulement Guémena, c'est sur l'ensemble du territoire dont les enfants sont abandonnés sur le plan judiciaire. Et aussi, quand vous observez cette loi-là, il y a de bonnes dispositions à l'intérieur. Par exemple, on dit tout enfant doit avoir son identité. Tout enfant doit être logé chez ses parents. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on observe les enfants à Guémena, à la rue, au marché. Les enfants vendent des noix de cola. Les enfants ne vont pas à l'école. Et tout ça, ça pose problème. Les droits des enfants sont violés.
Merci beaucoup, Maître Mopila. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de parole aux auditeurs. Merci à Alain Goy qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, Piro et Lamenji. J'ai eu le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangue. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Parole aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Kapi. Merci, au revoir.